Vous écoutez On lit pour vous.
Transformer les lieux de mémoire du génocide en espace de dialogue et d'apprentissage pour la paix au Rwanda, un texte de la rédaction paru le 7 juillet 2026 sur le site de l'UNESCO. Plus de trois décennies après le génocide de 1994 contre les Tutsis, le Rwanda fait face à de nouveaux défis. Veiller à ce que les jeunes générations restent engagées pour une histoire qu'ils n'ont pas vécue. Avec plus de 65 % de la population rwandaise née après 1994, l'éducation et les institutions chargées de préserver la mémoire jouent un rôle de plus en plus important dans la transmission de cette histoire et de sa pertinence pour le présent et l'avenir. Dans ce contexte, l'UNESCO prend part à l'effort collectif pour renforcer les liens entre les lieux de mémoire et le système éducatif officiel. À travers le pays, les lieux de mémoire du génocide sont plus que des espaces de souvenirs. Préservant la mémoire de plus d'un million de vies perdues en seulement 100 jours, ces lieux servent également comme espace d'enseignement, de dialogue et de réflexion, ce qui aide à renforcer la cohésion sociale et le soutien pour une paix durable. Reconnaissant leur rôle pédagogique, l'UNESCO, grâce au Programme international sur l'enseignement de l'Holocauste et des génocides, a officiellement lancé le projet « Enseignement du génocide des Tutsis au Rwanda » de 1994 sur les sites mémoriels au Mémorial du génocide de Kigali à Kigali, au Rwanda, le 9 juin 2026. Prévu jusqu'à mars 2027, ce projet pilote, mis en œuvre par l'UNESCO et Aegis Trust, en collaboration avec le ministère de l'Unité nationale et de l'engagement civique du Rwanda, MINUBUMWE, et le ministère de l'Éducation, MINEDUC, va soutenir le développement de ressources pédagogiques et d'opportunités de formation pour les enseignants, les guides et les éducateurs des communautés. En renforçant le rôle pédagogique des lieux de mémoire, le projet va également permettre de poser les fondations pour une portée plus large, notamment grâce au renforcement du dialogue intergénérationnel et au soutien de la préservation et de la gestion durable des lieux de mémoire. En tant qu'élus du MINUBUMWE, notre mandat permet de promouvoir l'unité, les valeurs et la résilience nationale. Nous reconnaissons que l'éducation est un des outils les plus efficaces pour combattre une idéologie génocidaire, pour contrer la division et pour renforcer la cohésion sociale, dit Veneranda Ingabire, directrice générale de la mémoire et de la prévention du génocide, ministère de l'Unité nationale et l'engagement civique du Rwanda, MINUBUMWE. Transmettre l'histoire et créer des opportunités pour le dialogue. Alors que les jeunes Rwandais en apprennent davantage sur le génocide grâce à l'enseignement que grâce à la mémoire personnelle, préserver et transmettre cette histoire est devenu une priorité. Comment les lieux de mémoire peuvent-ils encourager l'apprentissage, le dialogue entre communautés et l'engagement pour empêcher de nouvelles atrocités? Cette question était au cœur de la table ronde de l'UNESCO, organisée le 14 avril 2026, en partenariat avec la délégation permanente du Rwanda à l'UNESCO, prenant part aux commémorations de la Journée internationale de la réflexion sur le génocide de 1994 contre les Tutsis au Rwanda. L'engagement pédagogique et communautaire peut réduire les fossés générationnels et créer des opportunités de dialogue à la fois dans des espaces d'apprentissage formels et informels, en tant qu'espace ancré dans les témoignages historiques et les souvenirs, les lieux de mémoire fournissent un environnement où les jeunes peuvent poser des questions, mieux identifier la désinformation et la déformation historique, ainsi que mieux comprendre qu'est-ce qui a rendu le génocide possible, ainsi que son héritage de nos jours. En Kinyarwanda, il y a un dicton. Si tu n'as pas eu l'opportunité de parler avec tes parents, tu ne sauras jamais ce que tes grands-parents ont dit. Pour tous ceux qui n'ont plus leurs parents, comment pouvons-nous transmettre cette mémoire aux jeunes générations, dit Freddy Mutangua, PDG d'Aegis Trust. Relier l'apprentissage en classe aux souvenirs et à la réflexion. En se concentrant sur les lieux de mémoire de Bizezero, Jizozi, Murambi et Nyamata, le projet va veiller à ce que les visites deviennent des expériences d'apprentissage significatives et adaptées à l'âge, historiquement ancré et sensible à l'héritage traumatique du génocide, ainsi que relier l'apprentissage en classe aux souvenirs et à la réflexion. Nous reconnaissons l'importance capitale de ce projet. Les mémoriaux du génocide du Rwanda sont plus que des espaces de mémoire pour nous, les spécialistes de l'éducation. Ils sont des espaces d'une importance capitale pour l'apprentissage, la réflexion et le dialogue, dit Rose Baguma, chef du département des politiques éducatives, MINEDUC. C'était transformer les lieux de mémoire du génocide en espaces de dialogue et d'apprentissage pour la paix au Rwanda, un texte de la rédaction paru le 7 juillet 2026 sur le site de l'UNESCO.
École privée. Un dossier de Zachary Goudreau paru le 2 juillet 2026 dans Le Devoir. Premier texte. Les écoles privées plus enclines à dire non au protecteur national de l'élève. Manque de reddition de compte, plainte refusée en plus grand nombre et direction juge de ses propres décisions. Les écoles privées tardent à accorder autant d'importance que le réseau public au drapeau rouge levé par des parents d'élèves auprès du protecteur national de l'élève. Une situation que dénonce le principal intéressé. Je viens d'envoyer une lettre, début juin 2026, parce qu'il y avait une dizaine d'écoles privées sur les quelques 250 en tout au Québec qui n'avaient pas encore nommé de responsable du traitement des plaintes. J'ai signé une lettre en disant « Là, les amis, ça va faire 3 ans. Let's go », lance en entrevue au Devoir le protecteur national de l'élève, Jean-François Bernier, qui chapeaute une vingtaine de protecteurs régionaux à l'échelle de la province. En août 2023, un an après la création du protecteur national de l'élève, un modèle standardisé a été instauré pour uniformiser le traitement des plaintes dans l'ensemble du réseau scolaire québécois. Auparavant, seuls les parents d'élèves du secteur public y avaient accès par l'entremise de leur centre de service scolaire. Cette réforme est ainsi venue étendre ce recours aux parents d'élèves du réseau privé. Force est de constater, cependant, que les écoles privées tardent à s'adapter à cette nouvelle structure, qui a mis fin à l'autonomie complète dont ces établissements disposaient auparavant en matière de traitement des plaintes. Ainsi, alors que, dans le cadre de la préparation de son dernier rapport annuel, couvrant l'année scolaire 2024-2025, le protecteur national de l'élève avait reçu 67 des 72 rapports annuels d'activité des centres de services et des commissions scolaires, près de la moitié des 256 établissements d'enseignement privé n'avaient pas rempli cette obligation légale, indique le document. On va les talonner, assure pour sa part M. Bernier, qui entend accompagner et relancer les écoles privées sur l'importance qu'elles se conforment à cette obligation afin, à terme, de les amener au même niveau que le public. L'avocat de formation ne voit d'ailleurs pas là une non-collaboration volontaire du secteur privé, mais plutôt une méconnaissance de la loi sur le protecteur national de l'élève par plusieurs établissements. Cependant, il y a une minorité d'écoles privées qui ne veulent rien savoir de s'adapter à ce nouveau cadre légal, convient-il. Jointe par le devoir, la Fédération des établissements d'enseignement privé, FEEP, assure pour sa part prendre au sérieux ces critiques. Ainsi, des groupes de réseautage et de partage de bonnes pratiques ont notamment été mis sur pied pour soutenir les responsables du traitement des plaintes et assurer une meilleure compréhension des obligations prévues par la loi par les établissements concernés, indique la Fédération. On ne peut être juge de ses propres décisions. Plusieurs protecteurs régionaux de l'élève ont par ailleurs constaté que, dans certaines écoles privées, une même personne occupait deux fonctions qui sont pourtant incompatibles. Par exemple, le directeur général d'un établissement privé occupait également le rôle de personne responsable du traitement des plaintes et des signalements, une pratique qui va à l'encontre des principes d'équité procédurale et de justice naturelle, indiquait dans son dernier rapport annuel la protectrice régionale de l'élève Chloé Corneau, qui dessert une partie des écoles de l'Est du Québec. J'ai donc rappelé aux établissements concernés l'importance de respecter cette règle fondamentale. On ne peut être juge de ses propres décisions, peut-on lire. D'autant plus que la confusion entourant ce double rôle de la direction générale peut venir allonger les délais de traitement des plaintes dans ces établissements, soulignait pour sa part la protectrice régionale de l'élève Caroline Gervais, qui dessert une partie des écoles de la Montérégie. Jean-François Bernier abonde dans le même sens et souligne l'importance que cette situation soit corrigée afin d'éviter d'entacher la crédibilité du processus en place en laissant croire à des parents que les jeux sont joués d'avance. Par courriel, la FEEP reconnaît que, dans certaines écoles privées, la direction générale occupe aussi la fonction de responsable du traitement des plaintes, ce qui peut créer des défis d'application lorsque la même personne est déjà intervenue dans le dossier à une étape antérieure. Encore là, la Fédération assure poursuivre ses échanges avec le protecteur national de l'élève afin d'identifier des solutions qui permettent à la fois de respecter les objectifs de la loi et de tenir compte des particularités du secteur de l'enseignement privé. Davantage de plaintes refusées. Les données comprises dans les deux premiers rapports annuels publiés par le protecteur national de l'élève font par ailleurs état d'un taux de refus de ces recommandations plus élevé dans les écoles privées qu'au sein du réseau public. Il atteignait 9,89% en 2023-2024 dans les premières, contre 4,17% dans les écoles publiques. Ces deux pourcentages ont atteint respectivement 8,28% et 4,63% l'année suivante, a constaté Le Devoir. Elles font plus cavalier seul, les écoles privées, reconnaît Jean-François Bernier, qui associe cette situation à l'autonomie que chérissent ces établissements. Ces derniers sont par ailleurs nombreux à faire l'objet de plaintes lorsqu'ils décident de résilier ou de ne pas renouveler le contrat de service éducatif d'un élève. C'était d'ailleurs, l'an dernier, l'un des principaux motifs de plainte notés par les protecteurs régionaux dont le territoire compte plusieurs écoles privées. Des fois, on est vite sur la gâchette des sanctions dans les écoles privées, constate M. Bernier. Il suffit parfois qu'un élève ait commis une niaiserie une seule fois pour qu'une école sorte un canon pour tuer une mouche en expulsant celui-ci. C'est là qu'on va intervenir pour dire « Un instant, tu n'as pas à faire ça. La sanction est nettement déraisonnable et démesurée par rapport à l'acte », poursuit le protecteur national de l'élève, qui rappelle qu'au public comme au privé, être éjecté de ton environnement scolaire, de ton groupe d'amis, ça a un impact évident. La FEEP souligne pour sa part que, dans certains cas, la décision de cesser d'accueillir un élève peut être liée au fait qu'un établissement n'est pas en mesure de lui offrir les services spécialisés dont il aurait besoin parce qu'il ne dispose pas des ressources ou des autorisations requises pour ce faire. C'est d'ailleurs une réalité que la FEEP porte à l'attention du ministère de l'Éducation, indique-t-elle. Nous poursuivons nos démarches afin que les établissements puissent disposer de davantage de moyens pour répondre aux besoins diversifiés des élèves et favoriser leur réussite dans le milieu le plus approprié pour eux. Vous écoutez École privée, un dossier de Zacharie Goudreau paru le 2 juillet 2026 dans Le Devoir. Deuxième texte. Victime d'intimidation, elle est forcée de changer d'école. Une mère de famille dénonce la décision d'une école privée de la Montérégie de cesser d'accueillir, à la prochaine rentrée scolaire, une élève victime d'intimidation. La nouvelle est arrivée un mois et demi après la publication d'un rapport critique de la protectrice régionale de l'élève, qui avait notamment souligné que le plan de lutte contre l'intimidation de cette école n'était pas à jour. En août 2025, Catherine Fournier a porté plainte auprès de la direction du Collège Trinité, situé à Saint-Bruno de Montarville, pour dénoncer l'intimidation que subissait alors depuis quelques mois sa fille de 13 ans de la part d'un groupe de 6 élèves fréquentant le même établissement. En entrevue au Devoir, elle raconte avoir été déçue par la gestion de ce dossier par le Collège, qui insistait pour que la voie de la médiation entre l'élève et ses intimidatrices soit privilégiée, malgré la réticence de la mère et de sa fille à opter pour cette approche. Madame Fournier a ainsi porté le dossier à l'attention de la protectrice régionale de l'élève, Caroline Gervais, qui a rédigé un rapport critique à l'endroit du Collège Trinité en mars 2026. Elle a alors souligné que le plan de lutte contre la violence et l'intimidation de l'établissement n'était pas à jour et que des éléments y étaient absents. Le collège n'avait également pas mis en place l'ensemble des mesures nécessaires pour assurer un milieu sain et sécuritaire pour la fille de Catherine Fournier, souligne le document. L'école avait notamment omis de séparer l'élève de ses intimidatrices lors d'activités en plein air qui se sont déroulées dans les mois précédents. Elle avait aussi tardé à changer le casier de l'élève, qui serait à l'origine de l'intimidation subie par la fille de Madame Fournier, le changement n'ayant eu lieu qu'en décembre dernier, peut-on lire. En ne respectant pas ses engagements, le collège a contribué à fragiliser davantage le lien de confiance de la fille de Catherine Fournier envers le personnel scolaire. Or, cette confiance constitue un facteur essentiel de protection pour l'élève, mentionne les conclusions de Mme Gervais que Le Devoir a pu consulter. Concernant le recours à la médiation, la protectrice régionale de l'élève rappelait qu'il s'agit là d'un processus volontaire, dont la participation se doit d'être libre et éclairée. Toute personne qui refuse cette modalité de résolution ne peut être tenue responsable de son refus, mentionne le rapport, dans lequel Mme Gervais appelait le collège à faire preuve de prudence dans l'utilisation de cette modalité en contexte d'intimidation ou de situations qui y sont apparentées. Un rapport que la mère de famille et son conjoint avaient alors accueilli avec soulagement. On s'est dit que le collège, en lisant ça, il va rectifier le tir et s'excuser pour sa gestion de ce dossier, évoque Mme Fournier en entrevue au Devoir. Lien de confiance. Or, un mois et demi plus tard, le collège a plutôt décrété, dans une lettre acheminée le 29 avril 2026 à Catherine Fournier et à son conjoint, qu'il ne renouvellerait pas le contrat d'admission de leur fille à cette école pour la prochaine année scolaire. L'adolescente devra donc fréquenter un autre établissement à l'automne. Dans cette lettre, le directeur général de l'école, Jean-François Gay, justifie cette décision en faisant valoir que le lien de confiance entre l'établissement, la mère de famille et sa fille a été rompu. Dans un tel contexte, le collège estime qu'il n'est plus possible d'envisager la poursuite harmonieuse de la relation contractuelle au-delà de la présente année scolaire, indique le document signé de la main de M. Gay. C'est comme si on les a dérangés en faisant une plainte au protecteur de l'élève, puis qu'ils ont décidé de juste se débarrasser de nous au lieu de travailler avec nous, ajoute Mme Fournier. On voit ça comme des représailles, poursuit celle qui a tenté, en vain, de faire reconnaître comme tel ce non-renouvellement auprès de la protectrice régionale de l'élève. Cette dernière a plutôt rejeté cette plainte en soulignant qu'aucune loi n'oblige une école privée à renouveler le contrat de service éducatif d'un de ses élèves. Elle a d'autre part indiqué, dans des conclusions rendues le 17 juin 2026, que le motif de perte de lien de confiance évoqué par le collège était fondé, légitime et raisonnable, et permet donc de renverser la présomption de représailles. Joint par le Devoir, le directeur général du Collège Trinité, Jean-François Gay, insiste ainsi pour dire que la décision de ne pas accueillir la fille de Catherine Fournier dans son école l'an prochain a été prise complètement indépendamment des plaintes effectuées auprès de la protectrice régionale de l'élève. Une décision que l'établissement n'a pas prise à la légère, mais plutôt après avoir déterminé que des parents de l'élève en question ne faisaient plus confiance à cette école, ajoute-t-il. Il affirme d'autre part que l'ensemble des recommandations qui avaient été formulées par la protectrice régionale de l'élève dans ce dossier ont été mises en application. Quant à l'insistance de l'école à proposer la médiation pour régler ce dossier, malgré le refus de la mère et de sa fille, le directeur général fait valoir que dans la plupart des situations, l'intimidé d'aujourd'hui est souvent, voire quasiment tout le temps, un intimidateur il y a quelques jours. Donc, ce qu'on veut, c'est vraiment de mettre ensemble les parties pour trouver des terrains d'entente. Mais encore faut-il que les parties veuillent s'asseoir, conclut-il. Vous écoutez École privée, un dossier de Zachary Goudreau paru le 2 juillet 2026 dans Le Devoir. Troisième texte. Des appels à donner plus de pouvoir aux protecteurs de l'élève. Des experts s'inquiètent des nombreuses plaintes de parents formulées en lien avec le départ forcé d'élèves dans des écoles privées et des plans de lutte contre l'intimidation qui ne sont pas à jour dans plusieurs établissements. Ils souhaiteraient que le protecteur national de l'élève ait une plus grande capacité d'action, tandis que le titulaire du poste défend son rôle d'ombudsman. Les ruptures et les non-renouvellements de contrats de services éducatifs figurent parmi les principaux motifs des plaintes déposées ces deux dernières années auprès de plusieurs protecteurs régionaux, eux-mêmes relevant du protecteur national de l'élève, Jean-François Bernier, par des parents dont les enfants fréquentent une école privée. Selon la professeure de la Faculté des sciences de l'éducation de l'Université de Montréal, Mélanie Paris, cette situation témoigne de l'importante autonomie dont jouissent les écoles privées, qui, bien qu'elles soient fortement financées par l'État, continuent de voir les élèves et leurs parents comme des clients qui peuvent changer d'établissement s'ils ne sont pas satisfaits. Or, le départ forcé d'un élève d'une école peut avoir des répercussions importantes sur sa vie sociale et sa santé mentale, soulève la chercheuse et étudiante au doctorat au Boston College, Shofika Vetyanathasarma, qui s'est récemment penchée sur le bilan des activités du protecteur national de l'élève. C'est une situation injuste et absurde, lance pour sa part Christine Gingras. Cette dernière s'était mobilisée pendant plusieurs années, aux côtés de trois autres mères de famille, afin de réclamer une meilleure protection pour les enfants victimes d'intimidation dans des écoles privées. Ces deux enfants avaient été expulsés d'une école primaire privée, qu'on ne peut nommer pour des raisons juridiques, après que Mme Gingras a dénoncé l'intimidation subie par l'un d'entre eux. Le dossier s'est réglé par une entente à l'amiable avec l'école en question et le ministère de l'Éducation en 2021. La mobilisation des quatre mères devant de nombreuses instances a d'autre part contribué à la création du protecteur national de l'élève qui, depuis 2023, dessert tant les écoles publiques que privées par l'intermédiaire d'une vingtaine de protecteurs régionaux. Or, même si elle a donné une voix à plus de parents, cette institution ne dispose pas d'un pouvoir coercitif, puisqu'elle ne peut formuler que des recommandations, se désole Mme Gingras. Certains établissements privés, qui tiennent à leur autonomie, décident ainsi de faire fi des recommandations formulées par cette institution, souligne Shofika Vetiana Tassarma. Elle déplore elle aussi que le protecteur national de l'élève ne dispose pas du pouvoir requis pour changer les choses au sein des établissements récalcitrants. Si on changeait la nature de ce qu'on est en ajoutant un pouvoir coercitif, on ne serait plus ce qu'on est. On ne serait plus un ombudsman, répond le principal intéressé, Jean-François Bernier, en entrevue au Devoir. Ce dernier deviendrait alors un juge, ce qui l'empêcherait d'agir comme facilitateur pour réunir des gens autour de la table et rétablir le lien de confiance lorsqu'il est rompu entre des parents et leur école, plaide-t-il. Lutte contre l'intimidation. Je trouve que la limite du protecteur de l'élève, c'est qu'on regarde des situations au cas par cas, alors qu'il y a des enjeux systémiques qui conduisent aux difficultés qu'on observe dans le réseau scolaire, relève pour sa part Mélanie Paris. Elle souligne à cet égard le nombre important de recommandations formulées par des protecteurs régionaux dans les deux dernières années, qui portaient sur des défis liés à la révision annuelle et à la mise en application du plan de lutte contre l'intimidation dans plusieurs établissements publics et privés. Or, les recommandations formulées par ceux-ci ne peuvent porter, chaque fois, que sur l'enfant directement lié à la plainte déposée par un parent, même si, dans les faits, la situation découle d'une mauvaise application du plan de lutte contre l'intimidation qui touche beaucoup d'élèves, note la professeure. Peut-être qu'il faut arrêter de traiter les cas au cas par cas, d'attendre les plaintes, puis se dire « bon, bien ». Qu'est-ce qui a besoin d'être mis à jour partout au Québec? C'est quoi les choses qu'on ne doit plus voir dans nos écoles? Relève Mélanie Paris, qui appelle ainsi à une réflexion plus large sur les moyens de contrer l'intimidation dans l'ensemble du réseau scolaire, au lieu de fonctionner à la pièce. C'était « École privée », un dossier de Zachary Goudreau paru le 2 juillet 2026 dans Le Devoir.